Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro de ce libre journal des traditions, l'abbé Alain Laurence, qui aura la joie de recevoir à 19h30, c'est-à-dire là, tout de suite, avec bonheur, Mère Catherine de Sienne, dominicaine, enseignante de Fanjeaux. Puis je recevrai au téléphone vers 20h André Scorbini qui nous parlera de l'université d'été légitimiste qui a pour thème l'homme face à son environnement, économie et écologie. Et vers 20h30, je recevrai Denis Duverger qui nous parlera de l'enseignement du latin vivant à l'Institut universitaire Saint-Pédis. Ma mère, bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Alors, vous êtes responsable et de la publication de ces cahiers d'activités qui viennent de paraître édités par l'œuvre scolaire Saint-Nicolas. Ce sont des cahiers d'activités qui correspondent à des manuels. Nous sommes alors non pas en SVT comme on dit aujourd'hui, ce ne sont pas les sciences de la vie et de la terre. Qu'est-ce que c'est ? De quoi parlez-vous dans ces ouvrages-là ?
Eh bien, nous parlons de sciences naturelles,
voilà.
Ce que l'on appelait autrefois sciences naturelles, qu'on appelle maintenant activités d'éveil, pourquoi pas. Et effectivement, ces sigles SVT sont absolument insupportables. D'abord, on ne sait pas ce que ça veut dire, on peut très bien confondre avec autre chose. Et puis finalement, on finit par appauvrir un vocabulaire à force de ne plus employer les mots. On ne sait plus de quoi on parle. Alors nous parlons de sciences naturelles. C'est-à-dire que nous allons, sur les 2 années du cours moyen, aborder les 4 grands thèmes qui sont les plantes, les animaux, le corps humain et la matière. Alors, je les énonce dans l'ordre des manuels. Ce n'est pas l'ordre de priorité ontologique, bien entendu. Normalement, on devrait parler de la matière, puis les plantes, puis les animaux, et finir par l'homme, bien entendu. Alors, c'est vrai que c'est une petite concession, mais c'était une question de difficulté de la matière, puisque le premier tome qui comprend les plantes et les animaux est destiné aux plus petits, plutôt CM1, et le deuxième au CM2. Or, le corps humain et la matière, ce sont des sujets un petit peu plus difficiles. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons fait une découpe qui n'est pas celle que nous aurions souhaitée dans le sens ontologique du terme.
Mais c'est pédagogique.
C'est plutôt pédagogique, voilà, exactement. Alors, que dire ? Eh bien, nous avions édité les manuels il y a déjà quelques années, enfin pas si longtemps que ça finalement. J'ai un peu oublié, le temps passe à toute allure, voilà. Celui-ci, c'est 2023 quand même, 3 ans, et l'autre un peu plus récent, je pense que doit être 2024. Voilà. Et depuis, nous avons évidemment, comme tout le monde, comme toutes les écoles hors contrat, la présence régulière, pas toujours très courtoise ni bienveillante, des inspections académiques qui demandent des traces écrites, etc. Alors, ma foi. Une trace écrite, ce n'est pas mauvais en soi. On peut essayer de le faire un peu à sa manière pour essayer de faire semblant de faire plaisir à ces braves gens. Donc, c'est un peu ce que nous avons tenté par ces cahiers qui reprennent les éléments des chapitres des manuels pour poser quelques questions, remplir quelques schémas, compléter, dessiner, enfin apporter un aspect un peu plus ludique peut-être, mais un peu aussi pédagogique. Complément de ces manuels. Voilà.
Alors on peut d'ailleurs dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que si l'on veut se faire une idée de ces ouvrages dont nous parlons, Mère Catherine de Sienne et moi, donc ces cahiers d'activités en sciences d'observation, c'est bien ainsi que vous les intitulez, qui sont destinés donc au cours moyen 1, cours moyen 2, tome 1, tome 2, on peut aller sur le site de l'œuvre scolaire Saint-Nicolas, on tape sur un moteur de recherche, on va sur l'œuvre scolaire Saint-Nicolas, et on peut voir exactement comment c'est présenté. Or, c'est très bien présenté. Il faut avouer que c'est remarquable parce que c'est très clair, c'est très richement illustré, ça parle aux yeux, ça parle à l'intelligence, puisque de toute façon, rien n'entre dans l'intelligence qui ne soit passé par le sens.
Et oui.
C'est vraiment votre méthode, vous êtes au fond réaliste, thomiste.
Oui, tout à fait. En fait, depuis 2 siècles que notre congrégation existe, nous avons privilégié tout à fait cette philosophie thomiste. En tant que dominicaine, ça ne vous surprendra pas, bien entendu. Et ce qui est assez agréable, c'est qu'on s'aperçoit que dans la fin de leur scolarité, nos élèves ont des réactions qui sont très réalistes, en fait. Vis-à-vis de certains sujets, elles vont tout droit à la bonne réponse parce qu'elles ont été pétries de ce réalisme. Aucune science n'est négligeable pour faire rentrer ce fameux bon sens dans l'esprit. Et ça passe partout, effectivement. Et dans les petites classes, comme vous le disiez, le fait d'attraper, d'appréhender par les sens, c'est capital. Et c'est tellement à l'opposé de ce que l'on voudrait faire aujourd'hui.
C'est que j'ai envie de vous dire, vos cahiers sont un petit peu un antidote à tout ce qui est virtuel. Ce sont des cahiers et ce ne sont pas des tablettes. Vous n'êtes pas dans cette tendance qui est quand même assez dangereuse, parce que l'acquisition des connaissances, ce ne passe que par du virtuel.
Oui. Donc ça, c'est déjà le problème d'une photographie qui est quelque chose vu à travers l'œil du photographe. Donc en fait, ça fait un petit moment qu'on se détourne peu à peu par l'accumulation de ces médias, c'est-à-dire ces intermédiaires qui viennent s'interposer entre l'être et ce qu'il observe. Et je crois qu'il y a déjà depuis un moment, en fait, une espèce de captivité de l'esprit par ces intermédiaires qui ne sont pas nous-mêmes. Et dans l'informatique, ça c'est absolument flagrant. Moi, je n'ai pas été baignée dans l'informatique toute petite. Je suis arrivée lors de mes études et je sens très fort cette espèce de violence faite à mon esprit quand je dois utiliser un programme créé par quelqu'un d'autre. Je veux toujours faire autre chose. J'ai toujours envie de passer par d'autres chemins, mais il y a une contrainte. Il faut absolument passer par là. Et ça, je le ressens parce que je n'ai pas eu ça depuis mon enfance. Je pense que les enfants qui sont bien plus souvent tournés vers des moyens informatiques maintenant sont formatés au sens propre du terme, en fin de compte, parce qu'ils vont être guidés vers une connaissance par tout un tas d'intermédiaires. Alors, une photo, ce n'est pas très grave, parce qu'on voit bien qu'il y a un plan, etc. Un film, c'est déjà plus ennuyeux, parce qu'en plus, on va avoir un son. Mais alors, le virtuel, en plus, comment est-ce qu'on appelle ça ? Une réalité augmentée ?
Oui.
C'est-à-dire que c'est soi-disant quelque chose de vrai, mais à quoi on rajoute, en fait, selon sa fantaisie, ce qui vous convient. Vous pouvez changer d'allure, même vous-même, je crois. Vous pouvez vous transformer, vous pouvez devenir, comment on appelle ça, un avatar, j'imagine. Et c'est absolument épouvantable, c'est sûr. Alors, il est vrai que les sciences d'observation sont absolument indispensables. Elles sont indispensables pour ouvrir une vraie curiosité et non pas cette espèce de passage d'un instant à un autre sur une information. Et là, en fait, on est obligé de creuser un peu, de s'arrêter, d'essayer de comprendre dans un monde, peut-être vous l'ai-je déjà dit, qui me paraît magique pour les enfants. Tout est extraordinaire. Vous ouvrez un robinet, l'eau coule. Ce n'est pas normal. Autrefois, il fallait prendre un seau, il fallait prendre une poulie, une corde, et on sentait que cette eau était pesante et qu'il fallait faire monter jusque-là. Pour un enfant qui ne sait pas qu'il y a une pompe qui l'a fait arriver, le geste n'a rien à voir avec l'effet. Dans le train, vous appuyez sur un bouton, les portes s'ouvrent. Il n'y a aucun lien entre le geste et l'effet. Donc en fait, on maintient maintenant, tout le monde est maintenu dans un monde qui est sans explication, inexplicable, incompréhensible en fait. Or, les sciences d'observation permettent d'observer des choses qui sont compréhensibles et que l'on peut expliquer. Et ça, je crois que c'est absolument indispensable. Et ça donne en plus ce sens de l'effort qui est très, très oublié de nos jours. En fait.
Vous parlez effectivement de cette civilisation du presse-bouton. Mmh. On appuie sur le bouton et on déclenche
des choses extraordinaires.
Vous dites, c'est ça, magique.
Oui.
Ça a aussi un effet moral, c'est-à-dire que ça crée des impatiences. Tout est dû. On presse sur un bouton, on doit avoir.
On doit avoir tout de suite.
Et si on ne l'a pas, c'est incompréhensible et c'est surtout inadmissible dans ces cas-là. On veut avoir tout vite, sans effort.
C'est ça. Ou même avec un effort, mais surtout très très vite. Parce que je vois que j'ai utilisé beaucoup l'informatique pour faire ces livres, évidemment. Et parfois, on a quelque chose qui prend plus de 3 secondes à se produire, devient extrêmement lent et long et irritant dans le fond. On se laisse prendre à ce piège-là, sans aucun doute.
C'est-à-dire que là, il faut tourner les pages, voilà. Il faut... Et au fond, vous développez bien sûr le sens de l'observation. Vous disiez tout à l'heure le bon sens, le sens commun, mais ça passe par le sens d'abord de l'observation. Ça fait partie de votre pédagogie réaliste.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Dès l'enseignement même des... de la lecture, vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui passent par les sens dans notre méthode. Les lettres rugueuses, on trace les lettres dans du sable, enfin le manuel, le tactile est très utilisé. Chez les petits, après on abandonne parce qu'il ne faut pas abuser de ces méthodes-là, mais à certains âges, c'est vrai, on sent bien qu'il y a besoin d'un contact, de quelque chose à toucher. Après, on fait un lien entre le geste, le son, la parole, etc. Mais c'est beaucoup plus réaliste que n'importe quelle méthode, même syllabique, vous voyez. C'est en fait parce qu'on construit à partir de quelque chose que l'on a touché vraiment.
Je n'ose pas vous demander ce que vous pensez des méthodes globales, semi-globales, où il faut... votre rire est un aveu. Parce que là, il s'agit de deviner. Il y a quelques lettres et on doit deviner que ça donne, je ne sais pas, dominicaine, par exemple.
Alors, il faut se méfier parce que ça, ça peut se retrouver avec n'importe quelle méthode de lecture. Il y a des enfants qui lisent les deux premières lettres et qui essaient de deviner la suite. Il faut vraiment, justement, là, obliger à l'effort de lire entièrement le mot avant de le prononcer. Mais c'est parce que la tentation de la paresse, mais fois, elle date d'il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Et tout ce qui y mène et tout ce qui peut l'encourager est tout à fait aimé par les enfants, c'est pas évident. Et cette méthode globale, outre qu'elle est complètement opposée à la formation du cerveau, est aussi une école de paresse. Parce que, oui, c'est de la devinette. Ce n'est pas un effort, c'est une devinette. Oui, tout à fait. Puis après, une complication pour la grammaire. Parce que,
oui.
Dans notre langue française, qui se conjugue de façon un peu particulière, dont les accords sont un peu spéciaux aussi, ça devient un peu compliqué parfois. Mais, alors, bon... Les gens géniaux vont se tirer d'affaire quoi qu'il arrive, mais ce sont les gens qui ont un peu plus de mal, les enfants qui ont un peu plus de mal, qui vont être très très perturbés par ces méthodes globales, effectivement.
Alors, j'indique aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai la joie de recevoir Mère Catherine de Sienne, et je dis bien que vous n'êtes pas née dominicaine, vous, dans une vie antérieure, vous fûtes, ne le niez pas, ingénieur. Donc, les sciences, ça vous connaît. La formation scientifique, c'est la vôtre au départ.
Oui, tout à fait.
Et quand vous dites, ce témoignage là que vous venez de faire spontanément est très intéressant, quand vous dites, on nous formate, on nous donne un programme, et au fond, il faut qu'on rentre par les cases. Oui. Marcel Lecorte parlait de l'intelligence qui encapsule le réel. Vous avez eu l'impression d'être encapsulé.
Tout à fait. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Alors, c'est vrai que les sciences ont été... moins vite contaminé que les autres matières, parce qu'il y a quand même une réalité. Je veux dire, si je lâche un objet, il tombe, il ne va pas se mettre à voler parce que j'en ai l'envie. Alors que dans d'autres sciences qui sont peut-être moins justement immédiatement, qui ont moins immédiatement les conséquences, c'est plus facile de errer. Et c'est vrai que dans les manuels scolaires, que je scrute depuis un moment, toutes ces matières scientifiques ont tenu le coup plus longtemps. Enfin, apparemment, parce qu'en réalité, il y a quand même un problème de pédagogie qui petit à petit se met en place, cette pédagogie qui est celle de l'enfant qui construit son propre savoir et qui même juge. Vous savez, il y a cette... je ne saurais plus vous dire les noms de ces pédagogues modernes qui sont nombreux et tout aussi stupéfiants les uns que les autres, mais il y a cette métacognition. C'est-à-dire que l'enfant essaie d'apprendre, et après, il se place au-dessus de son apprentissage pour le juger. C'est extraordinaire, tout de même.
À quel âge?
Tous les âges. C'est tous les âges, c'est tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très rousseauiste, si vous voulez, en fait. L'enfant ne doit rien recevoir de personne que de lui-même, et il doit juger ce qu'il a reçu. Je ne sais pas avec quels critères, ça c'est tout à fait ce qui est inintelligible pour moi, mais c'est vraiment la méthode. Et c'est ce que cherche... Ce que l'on voit avec les inspections et avec les programmes, avec le fameux socle commun, maintenant, ce qui intéresse l'éducation nationale, et le titre est intéressant, c'est éducation nationale, ce n'est plus l'instruction publique. On cherche à faire une éducation, donc elle ne cherche pas à ce que les enfants sachent les choses, elle cherche à ce que les enfants construisent une méthode, voyez. Et il faut qu'ils se posent les questions, il faut qu'ils suggèrent des activités pour répondre à ces questions, qu'ils fassent des expériences, qu'ils concluent après ces expériences, la fameuse méthode expérimentale transcrite à tout, finalement. Et c'est ça qui est important. Quand on est inspecté, on vérifie les traces écrites pour savoir si les enfants ont vraiment fait cette démarche. quand on les aide un peu trop à réfléchir, c'est abusif, en fait.
Alors peut-être, justement, vous accusez-vous à ce moment-là de les formater,
Un petit peu, en réalité, un petit peu. Oui. En fait, tout au moins, on ne porte pas ce jugement aussi radical, mais c'est leur enlever une forme de liberté. C'est ça qui est grave. Parce que nous devons former des citoyens. Des citoyens de la République. De la République révolutionnaire, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. Et donc, tout va avec cette notion de liberté. Liberté, égalité. Quant à la fraternité, ils ont beaucoup de mal à la mettre en place, visiblement, parce qu'elle ne doit pas être tout à fait accommodée avec les deux autres. Mais liberté, oui, égalité, absolument. Alors, c'est égalité entre classes, même non, égalité homme-femme, etc. Et puis toutes les.
Et égalité entre le maître et ses élèves.
Ah, même. Presque. Le maître doit être plus effacé, je pense, que l'élève. Le maître n'est que.
À l'école de l'élève.
À l'école de l'élève, pratiquement, oui. Il doit se mettre à son écoute pour peut-être éviter les catastrophes, je ne sais pas. Enfin, une cercle de référent. Il ne faut pas qu'il oblige trop l'enfant à penser d'une façon ou d'une autre.
Alors, vous dites que vous êtes réaliste. Vous-même, vous êtes à l'école du réel. Et vous pensez pouvoir, justement, apprendre aux enfants à se mettre eux-mêmes à l'école du réel. Oui. Au fond, le réel s'impose au maître et à son élève.
C'est absolument évident. Et en plus, l'élève, que voulez-vous ? Il ne va pas réinventer en quelques mois d'une année scolaire ce qui a pris plusieurs millénaires à être mis en place. Enfin, tout le monde n'est pas Einstein ou Pascal. C'est impossible. Alors, comment voulez-vous faire ça ? C'est irréaliste au sens le plus réel du terme, en fin de compte. Ah, oui, oui. Alors, on prend les enfants soit pour des génies, soit pour des imbéciles, d'ailleurs. Enfin, dans les livres, on va de l'un à l'autre. Et c'est très déroutant, je trouve. Enfin.
Je rappelle aux étudiants de Courtoisie que je reçois Mère Catherine de Sienne, Dominique, qui est enseignante de Fangeau, pour les deux cahiers d'activité, tome 1, tome 2, cours moyen 1, cours moyen 2, cahiers d'activité d'observation qui complètent les manuels d'observation. Vous disiez tout à l'heure, sur les sciences naturelles, on parlait aussi de leçons de choses.
Leçons de choses, oui, c'est ça.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Alors le mot « chose », je ne sais pas pourquoi on l'avait choisi, parce qu'en réalité, il s'applique à certains thèmes de nos études. Je pense que c'est plus difficile de parler de choses pour un animal et pour un homme, n'est-ce pas ? C'est même pour une plante à la limite. Mais le mot chose, il faudrait que je cherche. Je n'ai pas cherché pourquoi on l'avait utilisé et pourquoi on l'a abandonné en réalité.
Ou peut-être alors dans le sens latin res, et res réalité, quoi.
C'est
toujours le réel, c'est ça.
Voilà, oui, tout à fait.
Et le ipsa res loquitur, c'est la chose qui parle d'elle-même.
Voilà, mais dans ce sens-là, c'est tout à fait ça.
C'est ça.
Oui.
Ouais.
Les sciences naturelles, c'est la nature, elle est pleine de Dieu, donc c'est en même temps une école de contemplation, parce que alors, c'est très important aussi. C'est une des voies de preuve de l'existence de Dieu, c'est la beauté, l'ordre de la nature, donc tout ça y participe. Enfin, on peut s'éblouir.
Mais on a quel âge en CM2 ?
Alors, chez nous, en CM2, on a 9 ans.
Alors, j'ai 9 ans, ma mère.
Alors,
et j'ouvre le cahier, donc tome 2, à la page 28, sur l'oreille. On est à la radio, c'est tout à fait utile.
Ah, mais tout à fait.
Et alors là, c'est remarquable, je le dis un petit peu aux auditeurs qui ne voient pas, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Il y a une très belle tapisserie avec un orgue positif, une dame de la Renaissance, Moyen-Âge, qui joue. Vous allez nous expliquer pourquoi ce choix. Et ensuite, de quel sens l'oreille est-elle l'organe? Comment les sons sont-ils produits? Et là, je vois un verre à côté. Vous allez tout m'expliquer parce que je n'ai que 9 ans et je ne comprends pas grand-chose. Quelle partie de l'oreille les sons font-ils vibrer? Vous m'expliquiez ça. Quel est le rôle du nerf acoustique? Ça, je n'ai fait que la première page. Et après, j'ai toute une coupe de l'oreille sur la page 29. C'est remarquablement bien fait. Entre nous, soit dit, qui dessine tout cela chez vous?
En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce sont des traductions de schémas un peu plus anciens l'ordinateur.
Voilà. Et après, vous illustrez, vous mettez des couleurs.
Oui, c'est ça. En fait, on reprend, on reproduit. L'ordinateur permet de faire pas mal de choses, bien que nous en limitions l'usage pour nos enfants, nous essayons de l'utiliser quand il peut nous rendre service, voilà. Bien entendu. Et là, c'est ça, c'est effectivement ça. Bon, là, ça se fait, vous voyez, des logiciels, vous savez, Photoshop, Elements, ou je ne sais, vous permet de faire énormément de choses. En fait.
Mais ça reste un instrument pour
ah,
vous.
Ah oui, oui,
vous n'êtes
tout à
pas,
fait.
Vous-même instrumentalisé par cette machine-là.
J'espère.
Et là, on voit de fait sur la coupe l'oreille externe, l'oreille moyenne,
oui.
L'oreille interne.
Oui.
Alors, d'abord, pourquoi ce choix il fabrique, c'est, je disais, c'est très beau, là, c'est vrai. J'ai un flagrant délit de beauté, donc c'est le chapitre 13, page 28, l'oreille, tapisserie
oui.
De la dame à la licorne.
Oui, oui.
Bon, alors tous les Parisiens savent que ça
oui.
Se voit au musée de Cluny. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cela?
Eh bien, parce que pour chacun des chapitres, nous avons essayé de trouver de belles illustrations, parce que nous avons le souci d'élever les enfants dans le beau. Ça, c'est absolument une constante, autant que nous pouvons. Et dans les manuels, déjà, chaque ouverture de chapitre est une image, autant que possible, une œuvre d'art ou une belle, un beau paysage, etc. Donc, c'est l'idée. Alors, ma foi, il y a certains choix qui sont posés, mais alors la tapisserie de la dame à la licorne qui expose, enfin, elles sont plusieurs, qui expose justement tous les sens, paraissait parfaitement adaptée. Et elle est très, très belle. Alors là, ce n'est qu'un extrait, mais on comprend bien que c'est l'oreille. Il y a toute une explication. La licorne elle-même est à l'oreille tendue. La jeune femme joue de cet instrument. Et voilà, nous avons essayé de trouver de belles choses.
Et les enfants sont sensibles à ça?
Oui,
vous...
oui, oui. Oui, oui tout
et
à fait.
Parce que là, on n'est pas rentré dans le chapitre, mais on est quand même frappé. Vous avez pris pour l'illustration donc cette musicienne. Et ça va faire l'objet d'un commentaire dans la leçon. Enfin, on va
oui,
en parler.
Oui, on peut faire observer, on peut essayer de faire comprendre pourquoi, quel est le lien avec l'oreille, justement. Et là, bon, et après, il y a toutes les explications qu'on peut trouver au musée sur les détails de chaque petit lapin là, qui a telle ou telle attitude. C'est charmant, en fait. Cette tapisserie est d'une richesse extraordinaire. Et voilà. Donc, en fait, elle va illustrer tous les sens. On a le toucher. L'odorat et le goût, ce sont. Il doit y avoir la vue aussi. Ouais, nous avons pris ces extraits-là parce que ça paraissait intéressant. Voilà.
Là, les lapins, c'est tout à fait bienvenu parce que chacun sait qu'ils ont de grandes oreilles.
Et oui, voilà. Et c'est vrai, c'est une constante. Donc c'est très charmant. Cette tapisserie a ces éléments qui reviennent régulièrement. Donc la licorne, c'est sûr, mais aussi tous ces animaux qui sont là, alors avec différents attributs qui leur permettent d'illustrer justement le sens choisi. Donc là, c'était l'oreille.
Et là, alors, je vois, alors la deuxième question, c'est comment les sons sont-ils produits? Alors là, il y a une petite bulle avec un verre.
Un verre, une baguette.
Et des vibrations.
Une baguette qui fait vibrer le verre. Voilà.
Et là, vous faites cela en
classe.
C'est facile.
Ah oui, nous espérons. En fait, dans le livre, dans le manuel, il y a toute une partie qui s'appelle « Observons ». Qui suggèrent énormément d'activités qui peuvent être faites en classe. Il y a beaucoup d'illustrations aussi pour que les maîtresses de classe qui n'ont pas le moyen d'obtenir tel ou tel objet d'étude puissent quand même le travailler avec le livre. Mais le mieux est quand même de voir s'il s'agit d'une pomme, une vraie pomme, s'il s'agit d'une fleur ou d'une giroflée, une vraie giroflée. Et là, on peut très bien, c'est très facile de prendre un verre et de le faire teinter et de le faire vibrer. Et puis après, on peut aussi prendre un diapason si on veut. Enfin, on peut prendre différents outils. Mais là, c'est un petit rappel. Voilà. Et donc, cette vibration, elle va être aussi dans l'oreille.
Voilà.
Quelque chose va vibrer dans l'oreille.
Et alors,
c'est
justement...
le tympan. C'est le tympan qui va ensuite agiter les osselets qui eux-mêmes vont faire bouger le liquide qui est dans la cochlée et qui va ensuite... permettre au nerf auditif, nerf acoustique, pardon, d'envoyer un message jusqu'au cerveau. On ne va pas dans ce détail-là avec ces petits, mais il y a déjà l'image, il y a déjà quelque chose. Et c'est très important, vous savez que la pédagogie est une superposition d'éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres au fur et à mesure que les années passent. Et quand un mot a été déjà entendu, il est beaucoup plus facile de l'aborder l'année suivante. C'est très frappant. Même si on n'a pas donné l'explication, le mot est donné. Donc, il est rentré dans la mémoire et c'est une difficulté de moins l'année suivante, puisque le mot est connu. Maintenant, on peut mettre quelque chose, une définition, une image, enfin, tout un tas de choses. La pédagogie, c'est l'art de la répétition.
Et là, on voit par exemple de la question 2 à la question 3, les vibrations qui sont représentée par des ondes. Voilà. Alors, on voit le verre teinte et on en voit et on retrouve à l'entrée du pavillon, là,
oui, c'est ça.
On a les, à nouveau ces
vibrations.
Voilà. Donc, on peut suivre. Et puis, surtout, sur la page 29, c'est formidable parce que là, on a cette coupe qui permet de suivre tout le trajet du son passant par le tympan et tout. Donc, ça, c'est vraiment.
C'est un peu l'idée d'avoir un. Enfin, l'image est toujours une aide pour mémoriser, se rappeler, remplir l'intelligence et la mémoire. Voilà. Et après.
Je vais demander à Guylaine de nous dire qu'est-ce que nous sommes en train de feuilleter, Mère Catherine de Sienne et moi, et surtout où est-ce qu'on se procure tout cela, puisque ça a l'air captivant.
Il s'agit donc des cahiers d'activités de sciences en cours moyen, tome 1 et tome 2, chacun au prix modique de 6 euros. Et ils sont édités par l'œuvre scolaire Saint-Nicolas et on peut se les procurer soit auprès de l'œuvre scolaire Saint-Nicolas, 25 A rue Montebello, 78 000 Versailles, téléphone 01 39 51 97 03 ou bien sur le site Renaissance catholique. Tout attaché, renaissancecatholique.fr.
Et même / boutique /
Oui, il y a même un QR code dans chacun des livres. C'est extraordinaire.
Exactement.
On n'arrête pas le progrès.
Et là, on a toute la collection. On voit qu'il y a une initiation à l'informatique.
Oui,
vous y êtes pour quelque chose,
un petit peu,
il me semble.
Un petit peu,
c'est ça. Ensuite, il y a un manuel d'histoire de France. C'est toute une bibliothèque qui est proposée. Histoire de France pour nos enfants au niveau primaire. Manuel de mathématiques, cours élémentaire, de géographie, cours élémentaire. Et puis, on arrive justement à ces manuels de sciences pour le cours moyen, tome 1, tome 2. Et puis, les cahiers d'activités qui suivent. J'ose vous demander quels sont les prochains manuels ou prochains cahiers.
C'est un peu difficile de préciser maintenant parce que les choses deviennent un peu plus compliquées, les programmes changent un peu, les exigences de l'éducation nationale nous contraignent quand même à faire très attention, beaucoup de prudence. Je ne sais pas pour l'instant. On avait envisagé des manuels de mathématiques, mais finalement, c'est un énorme travail. Donc, on va essayer de trouver quand même, et là, c'est un peu plus facile, dans le commerce, des choses qui vont nous convenir, puisque celui de CE est fait, qui nous fait le passage entre l'apprentissage du calcul en CP avec la méthode les réglettes Kuisner et le calcul plus classique. Après, on rentre dans un schéma plus simple.
Ouais.
Peut-être les livres de sciences du début du collège, mais...
Et quand Guylaine disait à l'instant que c'était pour la modique somme de 6 euros, je tiens à lui dire que ça n'est pas de la publicité mensongère, parce que ce sont quand même des ouvrages, on l'a vu, admirablement composés, très bien illustrés, qui font quand même entre 80 et 90 pages sur un grand format.
Oui,
6 euros, c'est donné.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, on espère comme ça que les familles n'auront pas trop de difficultés, parce que c'est vrai que toutes les dépenses sont absolument énormes pour des familles qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat, en fait, puisqu'il n'y a aucune aide de l'État, selon sa grande justice et sa grande égalité. Et donc, les parents se font des sacrifices remarquables pour mettre leurs enfants dans ces écoles. Il faut éviter qu'il y ait en plus celui de manuels trop onéreux, en fait, c'est sûr.
Ma mère, merci beaucoup de cette belle présentation. Merci aussi d'être venue, parce que je sais que vous arrivez des Cônes, vous étiez au Sacre, donc vous avez fait beaucoup de routes et vous êtes venue spécialement pour les auditeurs de Radio Courtoisie présenter ces cahiers d'activité. Alors, un petit mot, puisque vous y étiez, comment s'est passée la cérémonie?
Ah, c'était extraordinairement serein, calme, paisible. Pourtant, c'était un acte extrêmement grave, dû à des circonstances tout à fait dramatiques dans l'église. Mais on sentait que c'était ce qu'il fallait faire. Et je pense que le déroulement de la journée a été tout à fait une confirmation de cela.
Et vous n'étiez pas seul, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 16 500 personnes.
C'était très impressionnant.
Dont 68 nationalités. Enfin,
c'était remarquable. Et il y a eu cet épisode de la pluie, là, pendant une grosse demi-heure, juste au moment de la distribution de la communion, en fin de compte, qui a donc été retardée. Nous avons récité le chapelet pendant ce temps. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que sur les 16 000 personnes, il y en avait probablement bien 13 000 dehors, dans la prairie. Et bien qu'on ait proposé de refuge des tentes qui serviraient après pour les repas, cette prairie ne s'est pas du tout vidée. La seule chose, c'est qu'on a changé d'aspect. Il y avait les petits chapeaux, bobs, etc. Et puis tout d'un coup, ça a été, vous savez, comme les tortues romaines, là, les parapluies qui s'étendaient côte à côte, on ne voyait plus personne. Mais la surface couverte était la même. Ça veut dire que les gens n'ont pas du tout voulu quitter cette prairie, malgré cette pluie qui était quand même assez torrentielle. Et ça, je pense que c'était une bénédiction supplémentaire pour ces nouveaux évêques, parce qu'ils ont eu, on dit, une pluie de grâce, et puis trois quarts d'heure de chapelet par 16 000 personnes. 16 000 chapelets pour eux,
ouais.
D'un coup.
Et il faut dire effectivement qu'il y a eu une dizaine pour les consacrés,
oui.
Et pour le Saint-Père,
oui.
Tout le monde a prié. Et vous disiez vous-même qu'on voyait presque de façon sensible, ça a été comme une leçon de choses, une transformation.
Oui, tout à fait. C'est vrai que les visages avant la cérémonie, lors de la procession d'entrée, des visages graves, tendus, j'allais dire. Et au fur et à mesure que la cérémonie se déroulait, puisque c'était remarquablement retransmis par des écrans qui permettaient de voir ce que l'on ne pouvait pas avoir directement, eh bien, on voyait les visages se détendre, on voyait un peu plus de sérénité, de sourire. Les évêques consécrateurs ont été beaucoup plus, presque joyeux. Et puis, cette connivence était absolument extraordinaire, en fin de compte. Je crois que ça a été un moment de... Le mot est moderne, de communion, mais vraiment dans l'esprit, là. Tout le monde était là en sachant ce qu'il allait faire. Ce n'était pas une kermesse, ce n'était pas un chant de cocorico. Non, c'était des personnes qui assistaient gravement à une cérémonie grave et historique, certainement.
Un grand merci pour ce beau témoignage. À bientôt, ma mère.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé.
Voilà. Nous allons, chers amis de Radio Courtoisie, entendre un message de la radio, et j'ose le dire, pour la radio.
Savez-vous que l'été dernier, plus de 300 000 chiens et chats ont été abandonnés sur la route des vacances? Chaque année, des maîtres indignes claquent leurs portières et s'en vont, laissant derrière eux un compagnon fidèle qui, lui, ne les aurait jamais abandonnés. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie, qui, elle aussi, reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre cet été et vous préparer une rentrée percutante. Un euro, rien qu'un euro, pour nous aider à traverser la période la plus difficile de l'année. Ne nous abandonnez pas. Par avance, merci de votre fidélité. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Alors, quand Claudia vous dit que c'est une rentrée percutante que nous préparons, c'est vrai, j'en sais quelque chose, il y a plein de projets. Et tous ces projets dépendent de votre générosité. Donc, ne nous abandonnez pas sur une aire d'autoroute, soutenez Radio Courtoisie, qui vous accompagnera d'ailleurs sur la route de vos vacances si vous avez la possibilité d'en prendre, ce que je vous souhaite. Mais sachez que vous pouvez compter sur Radio Courtoisie comme Radio Courtoisie compte sur vous. Un grand merci par avance. Et j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui, lui aussi, revient des Côtes, il doit être sur la route. C'est André Scorbenic. Vous êtes avec nous, cher André?
Absolument. Bonsoir, monsieur
Abbé. Parfait. Alors, où en êtes-vous? Puisque vous êtes sur la route du retour. Vous étiez en Suisse et vous vous dirigez. Alors, est-ce que c'est vers votre Bretagne? Est-ce que vous faites une étape à Paris ou est-ce que vous en êtes?
Alors, je suis en pleine étape à Paris où j'arrive tout juste, donc à point pour pouvoir participer à votre émission.
Très, très bien. Alors, Mère Catherine de Sienne, qui elle assistait aussi au sacre hier, nous disait combien elle avait été frappée par le recueillement. Ça a été votre impression aussi, peut-être?
Absolument, je partage en tout point l'impression qu'a donnée Mère Catherine de Sienne, qui était tout à fait juste. C'est vrai que c'est ça qui était tout à fait édifiant, et l'affluence colossale n'a fait que renforcer justement la piété de cette cérémonie.
Oui, effectivement, on dit plus de 16 500 participants, il y avait près de 600 prêtres, frères et séminaristes, donc à peu près 600 soutanes, près de 400 religieuses, tout ça était extraordinaire. Et je peux te dire, parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir, parce que l'émission était, la cérémonie était retransmise sur les chaînes YouTube et autres, et ça a réuni plus de 500 000 vues. Donc on peut dire que vous n'étiez pas seul, même de l'autre côté d'Internet, on suivait la cérémonie, et ça partout, puisque ça a été diffusé en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en polonais et en portugais.
Tout à fait, c'est une influence à la hauteur de l'enjeu de cette cérémonie. Oui.
Un grand merci en tout cas donc pour... votre participation à cette émission, parce que là, on vous prend un peu au déboté, et vous allez nous parler d'une activité qui va avoir lieu cet été, c'est l'Université Saint-Louis 2026. C'est la 36e Université Saint-Louis. Vous n'avez pas fait la première, vous ?
Alors non, je n'ai pas fait la première. C'était une petite décennie avant ma naissance, donc malheureusement je ne pouvais pas y participer. Mais en effet, c'est la 36e édition de cette université Saint-Louis, qui est un moment fort, je pense, des vacances d'été. Comme vous le disiez juste avant, donc il ne faut pas abandonner pendant les vacances, que ce soit Radio Courtoisie ou que ce soit la réflexion politique, le travail de réflexion intellectuelle et de formation. Et donc l'Université Saint-Louis, depuis 36 ans maintenant, est un événement qui se propose justement de permettre à tous de continuer, y compris pendant les vacances, de se former, de se cultiver, de réfléchir à la question de la politique traditionnelle.
Alors il faut dire donc que cette université d'été qui a 36 ans, qui soufflera donc ses 36 chandelles, se tiendra dans la région de Poitiers du 28 juillet au 2 août.
Ouais,
et avec un thème d'une actualité tout à fait saisissante, l'homme face à son environnement, et vous précisez même économie, écologie. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce thème ?
Alors c'est un thème qui est, comme vous l'avez dit, qui est vraiment d'une actualité brûlante et qui en même temps soulève énormément de questions d'une importance capitale. Le sous-titre de ce thématique, donc sous-titre qu'on peut retrouver sur le tract qui est lui-même disponible sur le site uclf.org. Le sous-titre donc, c'est « De l'écologie radicale à l'économie débridée, quelle place pour un mode de vie traditionnel ?» On constate aujourd'hui qu'on est dans une société marquée par l'individualisme, donc où l'homme est seul, et bien souvent seul face à lui-même, face aux autres, face aux institutions, face à l'État, face à la ruine de la civilisation occidentale. Et donc, par ce thème, on a voulu justement réfléchir sur la manière de retrouver la place de l'homme au sein des communautés auxquelles il appartient, au sein d'un environnement vraiment pris dans le sens le plus large du terme, au sein de la nature, donc que ce soit au sens pragmatique, donc la nature, l'environnement physique, ou même la nature au sens de la circonstance qui entoure l'homme dans ce bas monde. Voilà, donc il y a deux grands axes qui seront abordés. Le premier, c'est celui de l'écologie. Le second, c'est celui de l'économie. Et bien sûr, ce sont deux axes qui ont un lien très fort entre eux, puisqu'ils partagent une étymologie très commune. La question de l'oikos en grec, donc la question du foyer, la question du lieu où l'on vit, du lieu où l'on habite, du lieu où l'on s'épanouit. Donc il y a vraiment, quel doit être le foyer de l'homme, quelle doit être sa place dans le monde pour qu'il puisse s'épanouir totalement, réaliser sa nature propre. Voilà, donc ça soulève un faisceau d'interrogations extrêmement importantes, extrêmement variées, etc., qu'il s'agira d'interroger donc pendant cette semaine de travail.
Alors je vois votre affiche, les auditeurs évidemment qui ne sont pas encore allés sur le site à l'adresse que vous allez rappeler dans un instant. Là, il suffit d'ailleurs de taper sur un moteur de recherche UCLF, donc c'est-à-dire l'Union des Cercles Légitimistes de France. L'affiche est très parlante elle aussi parce que c'est le plancher des vaches. Enfin, on a bien là quelques bovidés sympathiques en pleine prairie. Vous pouvez nous commenter le visuel là?
Alors, commenter ce visuel, alors c'est une tâche un petit peu ardue, mais évidemment qu'il y a des éléments à dire. Donc pour ceux qui veulent admirer justement ce visuel, je rappelle, c'est sur le site uclf.org. Et comme vous l'avez dit très justement, c'est le plancher des vaches, justement. C'est-à-dire qu'il faut toute notre ambition dans cette semaine de formation, donc du 28 juillet au 2 août, toute notre ambition, c'est de retrouver les principes d'une philosophie politique réaliste, c'est-à-dire ancrée dans le réel, qui part du constat de ce qui nous entoure pour ensuite pouvoir en tirer des leçons sur la manière dont les communautés politiques doivent s'organiser pour vivre en harmonie, en symbiose, justement, avec la réalité. Donc comme vous l'avez dit, qui est tout à fait parlant du plancher des vaches, du retour au réel, de l'ancrage dans la réalité, et prendre le contre-pied de la modernité philosophique qui, elle, cherche à imposer ses lubies au réel, les imposer au forceps, imposer ses idéologies. Nous, au contraire, nous voulons retrouver le mode de fonctionnement qui a prévalu pendant des millénaires, en réalité, qui est celui donc de la philosophie réaliste, illustrée par Aristote, Saint Thomas, etc. Et donc, non pas plaquer une idéologie sur le réel, mais chercher à vivre en harmonie avec la création, en réalité.
Alors vous êtes tout à fait dans la ligne de Mère Catherine de Sienne qui vous précédait. Elle nous parlait des sciences d'observation, de leçons de choses. Pour vous, cela vaut aussi dans le gouvernement des hommes?
Absolument. Dans le gouvernement des hommes, il faut savoir observer, absolument, pour que le gouvernement des hommes, donc je reprends le mot de Saint-Simon, mais pour que le gouvernement des hommes ne devienne pas l'administration des choses. Et nous allons nous inspirer de travaux de grands auteurs donc qui ont développé avec énormément de pertinence cette idée, donc notamment Marcel de Corte, le père Julien Marviel, et toute une liste d'auteurs qui est pléthorique. Alors, pour en citer certains qui sont parfois à la limite de la tradition philosophique, mais qu'il faut quand même étudier, on peut parler par exemple de Jacques Ellul, José Ortega y Gasset, donc oui, le philosophe madrilène, Bernanos, bien entendu, Gunther Anders, etc., etc. Donc il y a cette idée de retour à la réalité, de philosophie réaliste, cette idée d'empirisme, donc qui nous permettra de nourrir nos travaux. C'est notamment une idée d'ailleurs qui est abordée de manière particulièrement pertinente, puisqu'on parlait de Marcel de Corde dans L'intelligence en péril de mort, L'homme face à lui-même, qui sont des ouvrages dans lesquels on trouve des textes absolument fondamentaux sur cette question d'ailleurs.
Alors vous parliez, vous avez cité tout à l'heure Bernanos, on pense évidemment à la France contre les robots. Est-ce que vous avez l'impression que nos dirigeants nous robotisent?
Alors c'est une question extrêmement complexe, mais en même temps qui est on ne peut plus d'actualité. Alors toutes les thématiques qui sont abordées par Bernanos dans La France contre les robots, ont vu, sont malheureusement devenus quasiment des prédictions en réalité. C'est un texte qui est quasiment prophétique et on voit aujourd'hui que la technologie, la technique, donc ce terme qu'il s'agira de définir donc dans cette université Saint-Louis, en fait ont jeté un voile, disons, entre les sociétés humaines et la réalité, qui font que nos dirigeants nous font vivre aujourd'hui dans un monde qui est totalement déconnecté des grandes lois de la création, de la loi naturelle. Parlons tout simplement, sans parler de toute la législation qui est issue de 1789, parlons tout simplement de la loi sur le suicide assisté, donc l'euthanasie, qui est en cours de discussion, en cours de vote au Parlement, et qui à elle seule représente justement ce divorce entre la politique actuelle et la nature humaine. Ce qui fait écho d'ailleurs à une citation d'Isaac Asimov, grand auteur sur les questions de technologie, qui dit dans Un défilé de robots, il dit « Tout le malheur du monde vient de ce qu'il y a divorce entre nous et la nature ». Alors j'insiste sur le fait que le sens nature est ici à prendre dans toute son acception, à la fois dans le sens philosophique, la nature humaine, enfin, du sens philosophique, donc la nature humaine, jusqu'à son sens le plus pragmatique, donc l'environnement au sens où on l'entend aujourd'hui. Oui. Donc c'est bien sûr une question d'actualité, et d'autant plus d'actualité que les structures politiques nous poussent aujourd'hui du mauvais côté de la roue, si on peut dire.
Oui. André Scorbenic, donc pour vous, Bernanos, quand il décrit La France contre les robots, c'est une prophétie, mais pour nous, aujourd'hui, quand nous le lisons, c'est un constat, quoi.
Absolument, tout à fait. C'est un texte qui aujourd'hui, malheureusement, est bien sûr toujours d'actualité, et de plus en plus, au fur et à mesure que notre civilisation se précipite dans le chemin qu'elle prend.
Alors comment ça se passe concrètement, université d'été? C'est-à-dire qu'on travaille jour et nuit, on peut se détendre un petit peu, il y a un moment pour reprendre un repas, est-ce qu'on peut retrouver des amis, des gens viennent uniquement de la région de Poitiers, ou il y a quand même des gens qui viennent de toute la France? Dites-nous un petit peu quel est le contexte pratique, concret.
Alors, c'est une université d'été qui, encore une fois, s'ancre dans la réalité, à la fois sur le plan de la réflexion, mais aussi sur le plan de l'organisation et du déroulement. Donc, le déroulé concret de l'université vient d'une ambition qui est à la fois donc celle de se former, mais aussi celle de faire communauté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois volets, disons, il y a trois pans, trois perspectives sous lesquelles on peut considérer cette université. Premier plan, donc le plan intellectuel, donc avec les groupes d'études, où on va se réunir en groupe à taille humaine, donc à peu près une dizaine de participants pour étudier des textes. Il y a également des conférences pour la formation intellectuelle. Un deuxième plan, ça va être évidemment le plan spirituel. Bon, qui devrait être mis au premier plan, bien entendu, mais la progression chronologique n'est pas une progression hiérarchique, disons. Donc le plan spirituel, ça va être la messe tous les matins, puisqu'il y a une aumônerie qui est assurée, avec la présence d'un prêtre sur place en permanence. Donc une messe tous les matins, une messe tridentine. Le chapelet est également récité tous les soirs, donc il y a vraiment une forte dimension religieuse. Cette université est vraiment placée sous le signe de la religion. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect communautaire. Donc il s'agit aussi, bien entendu, de se retrouver entre personnes partageant les mêmes principes ou s'intéressant aux mêmes principes, puisqu'il n'y a pas besoin d'être légitimiste confirmé pour participer à cette université. Et donc tout cet aspect communautaire s'organise autour de moments conviviaux, que ce soit les repas bien entendu, les temps libres qui sont nombreux, qui peuvent prendre la forme de discussions libres ou de visites culturelles. Et enfin, pour insister vraiment sur cet aspect, il y a une veillée qui est organisée le soir, donc avec des chants traditionnels qui permettent réellement de, donc dans ce siècle de l'individualisme, de repenser la communauté sur des bases saines et sur des bases traditionnelles. Donc c'est vraiment un format qui est très complet et qui permet à chacun de trouver ce qu'il est venu chercher en réalité.
Et on voit effectivement que vous avez bien préparé cela et que vous offrez aux participants à cette 36e Université Saint-Louis un cadre rare pour réfléchir. Alors évidemment, qui dit rare fait se poser la question, si c'est rare, est-ce que c'est cher ?
Alors, les tarifs sont tout à fait abordables. Il faut compter, évidemment, il y a des adaptations tarifaires, par exemple pour les étudiants, pour les familles, etc. Et tous ces renseignements sont disponibles, encore une fois, sur le site uclf.org, où l'on peut retrouver le tract de cette université. Mmh. Et surtout, il faut bien avoir à l'esprit que l'argent ne doit pas être un problème et que il y a toujours possibilité de trouver une solution pour quelqu'un qui s'intéresse à ces questions et qui veut venir participer à cette université. Je rebondis d'ailleurs sur cette question. L'argent n'est pas un problème, mais le temps non plus, puisqu'il est évident que les vacances d'été sont quand même courtes, malgré tout. Et tous n'ont pas nécessairement une semaine à consacrer à une université d'été. Alors, pour cela, il y a également une solution, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de ne participer qu'à 1, 2 ou 3 jours de cette 36e Université Saint-Louis. On peut donc venir évidemment sur toute la semaine, mais on peut aussi, en fonction de ses disponibilités, adapter sa venue du fait des contraintes d'un emploi du temps chargé, par exemple.
Très très bien. Alors, je vais me permettre de donner l'adresse électronique à laquelle on peut vous écrire si on veut des précisions que nous n'avons pas pu donner au cours de cette émission. C'est tout attaché et en toutes lettres, n'est-ce pas, Saint-Louis, saintlouis.univ@gmail.com. Et puis vous redonnerez, si vous voulez bien, l'adresse du site lui-même, donc c'est uclf.org, n'est-ce pas?
C'est tout à fait ça, absolument.
Parfait. Et vous-même, vous interviendrez, André Scorbenic, vous êtes réservé sur quoi, l'écologie radicale ou l'économie débridée?
Alors, j'interviendrai pour ma part, donc dans les nombreuses conférences qui auront lieu. Donc, il y a diverses thématiques donc, qui sont abordées. Pour ma part, j'interviendrai donc sur la question de la technique. La technique qui, bien entendu, prend une place de plus en plus importante dans notre civilisation, et donc sur le regard qu'on peut apporter à la question de la technique selon les principes de la philosophie traditionnelle. Bien évidemment, on ne peut pas tout accepter. On voit bien que la technique aujourd'hui, pour paraphraser Flaubert, est comme Dieu dans sa création, présente partout mais visible nulle part. Donc on ne peut pas tout accepter, mais peut-on tout refuser? Évidemment non. Donc j'interviendrai donc sur une conférence qui aura pour objet donc d'explorer la juste place que doit avoir la technique dans une saine société. J'en profite pour dire un mot, si vous me le permettez, des autres conférences qui seront tenues. Donc il y aura un propos historique qui reconstruira l'histoire de l'idée du mouvement écologiste sous le prisme légitimiste, donc les légitimistes comme précurseurs des questions écologiques et économiques. Dans un deuxième temps, on aura aussi une approche de la question de l'écologie sous un prisme extrêmement pratique, donc la question de l'agriculture, les dérives de l'agriculture moderne par rapport à l'agriculture traditionnelle raisonnée. Il y aura évidemment toute une réflexion autour de l'économie, donc à travers Marcel Decorte ou à travers d'autres auteurs. Une conférence qui promet d'être passionnante, qui traitera de l'intelligence poétique à la science romantique selon Marcel Decorte. Une conférence qu'il ne faudra absolument pas manquer. D'autres propos qui seront tenus.
C'est très, très intéressant, très alléchant, si je puis me permettre. Donc, je redonne les deux références que nous avons données. Donc, si on veut écrire simplement par courrier électronique Saint-Louis, donc en toutes lettres, S-A-I-N-T-L-O-I-S, attaché, .univ@gmail.com. Et puis sinon, tout simplement, se rendre sur le site uclf.org. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne université d'été et encore merci d'avoir accepté de faire une petite étape par Radio Courtoisie alors que vous rentrez des cônes. Un grand merci.
Merci Monsieur l'Abbé.
À bientôt. Au revoir. Et j'ai la joie de recevoir Denis Duverger qui va nous parler latin de façon vivante.
Bonsoir Monsieur l'Abbé, merci de me recevoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors je vous présente, mais vous êtes déjà venu et ils vous connaissent bien. Donc vous êtes professeur agrégé de lettres classiques et vous enseignez le latin vivant aux étudiants de l'Institut Sapidis parce que c'est, je crois, quand même une des rares structures qui permettent cette acquisition du latin vivant à Paris. Vous êtes unique, dites-le moi.
Oui, oui, oui. En tant, au moins comme cours du soir, oui. C'est-à-dire que les étudiants ou les jeunes retraités ou les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas suivre de cours dans le cours d'une journée trouvent à l'Institut Saint-Pédis le soir, en effet, de quoi pouvoir suivre un cours de latin donc qui s'ouvre à des débutants, à des faux débutants. Il y a tout type d'étudiants qui viennent, plus ou moins jeunes, plus ou moins fâchés avec le latin, mais ils ont tous comme but de vouloir s'y mettre ou s'y remettre pour diverses raisons, et du même coup, ça permet un groupe extrêmement enrichissant. Et puis, depuis 2 ans, eh bien, on propose ce même cours également à distance, parce qu'on a pensé à tous ceux qui... en province ou ailleurs dans le monde, voudraient pouvoir apprendre le latin, mais ne trouvent pas de cours de latin près de chez eux. Donc l'avantage, c'est que le cours est donné, ils peuvent l'écouter en direct, ils peuvent aussi l'écouter en différé, puisqu'il est enregistré et conservé sur la plateforme pendant un certain moment pour pouvoir être réécouté. Et depuis quelques années, bien le nombre de ces auditeurs à distance augmente, ce qui veut dire que ça répond à un vrai besoin, avec des gens très courageux qui s'organisent au mieux pour pouvoir être là à l'heure, qui préviennent quand ils ne peuvent pas être là et qui vont suivre le cours en différé, qui posent leurs questions quand ils ont des difficultés qui les bloquent. Enfin, c'est tout à fait admirable de voir aujourd'hui que partout, au moins sur le territoire national, eh bien, il y a des gens qui ont soif d'apprendre le latin pour renouer avec leur culture, pour renouer avec leur tradition, pour parfois également comprendre, pour certains, le latin liturgique, puisqu'ils fréquentent...
J'allais vous demander justement quelles sont les motivations. Vous dites d'ailleurs sur tout le territoire national, mais est-ce que, puisque Internet est ouvert au monde entier, est-ce que vous avez des... correspondant à l'étranger, bien sûr. Le cours est en latin, puisque c'est le latin vivant, ça se donne en latin. Est-ce que vous avez des personnes qui s'inscrivent venant de d'autres pays ou qui sont...
Alors, c'est arrivé. La difficulté, peut-être pour certains, c'est le décalage horaire, quand ils sont vraiment très éloignés. Et donc, c'est arrivé, hein, et ça arrive. On a un ou deux étudiants qui sont sur des zones horaires très différentes des nôtres. Donc là, ils sont sûrs de ne pouvoir écouter le cours qu'en différé, mais qui arrive à le suivre de manière régulière quand même grâce à cela.
Mmh. Alors, les motivations, vous dites, certains cherchent certainement à mieux goûter, mieux suivre la liturgie traditionnelle.
Ça, oui, vous... ça c'est une des motivations. Il y a aussi la motivation pour certains de comme ils disent eux-mêmes, de ne pas vouloir mourir idiot. C'est-à-dire qu'ils ont eu de mauvaises expériences du latin dans leur jeunesse, et puis maintenant qu'ils ont un peu plus de temps, soit parce que leur travail le leur permet, soit parce qu'ils commencent une heureuse retraite, se disent, bah voilà, ça va être mon activité intellectuelle et je vais renouer avec le latin. Donc ils acceptent de repartir à zéro et généralement extrêmement motivés, ils voient leur progrès et ils peuvent comme ça... Effectivement, ne pas mourir ignorant du latin, en tout cas.
Et alors, cette démarche de retraité, moi j'ai connu à l'Institut, à sa fondation, donc il y a maintenant 46 ans, c'était un médecin qui disait, moi j'ai été très pris par mon activité professionnelle toute ma vie, mais j'ai toujours voulu faire du latin, de la philosophie, du grec, de l'hébreu. Eh bien, ça y est, maintenant que je suis à la retraite, je vais pouvoir faire tout ça. Et il l'a fait, en plus. Oui. Vous avez effectivement des gens...
Alors, ça continue, en effet. Oui. Voilà, des gens qui viennent vraiment dans la démarche de l'otium des Romains. Ils viennent parce qu'ils ont le temps, enfin, de pouvoir se consacrer à l'étude, d'approfondir. Et j'avoue que pour le professeur que je suis, c'est aussi très enrichissant et très encourageant parce qu'évidemment, ils arrivent avec toute leur expérience de vie... Donc, des questions qui sont souvent très stimulantes, des apports culturels nouveaux, une richesse qui est la leur, qui vient nourrir l'ensemble du groupe et qui profite vraiment à tous.
Rassurez-moi, il n'y a pas des gens qui viennent pour des raisons psychologiques, la période est tellement folle, j'en perds mon latin et je viens maintenant
non, parce
suivre.
Parce qu'effectivement, peu de gens aujourd'hui en perdent leur latin, puisque pour perdre du latin, il faudrait déjà en avoir. Et que bien souvent, ils essayent de combler une ignorance plus que de venir approfondir une connaissance. En tout cas, c'est aussi l'objet du cours que nous proposons, puisque c'est vraiment un cours qui est fait pour des débutants et des faux débutants. Donc on repart complètement à zéro.
Et si on a suivi avec vous une année, donc on a acquis déjà des bases solides, on peut progresser, vous avez...
Alors, le cycle est fait sur 2 ans, parce qu'en une année, on n'a pas le temps, parce qu'en fait, c'est une année universitaire, hein, donc c'est un semestre qui ne se réduit qu'à un trimestre de cours, et donc, en gros, c'est 25 séances, à peu près d'une heure et demie par semaine, et donc, évidemment, en presque moins de 50 heures, on n'arrivera pas à posséder suffisamment les bases du latin pour se permettre de le lire tout seul, sans trop de difficultés. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il y a 2 ans, et le cycle se fait sur 2 années. Le but étant qu'au bout des 2 années, eh bien, l'étudiant puisse de lui-même, à livre ouvert, lire un texte simple de latin. Donc, le texte simple de latin de référence, c'est vraiment le texte de l'Évangile, ou le De Viris Illustribus de Lomon. Et c'est ce niveau-là de texte. Et pour cela, ben, ils vont acquérir beaucoup de vocabulaire, ils vont acquérir des réflexes de langue, ils vont acquérir les outils de langue également nécessaires, et de manière très progressive et très répétitive, ce qui va leur permettre de pouvoir lire à livre ouvert. Parce que,
ça, en 2 ans.
Voilà, en 2 ans.
Donc ça
ans
veut dire qu'au bout de 2 ans, je n'ai plus besoin de ma traduction française dans mon missel.
C'est le but recherché, en effet. Voilà, c'est de pouvoir revenir à une lecture spontanée, simplifiée du latin.
Et si j'ai oublié mon missel chez moi et que l'abbé qui dit la messe ne lit que en latin l'épître et l'évangile, je comprends.
Alors je suis à peu près capable de comprendre en effet, à condition que le monsieur l'abbé pose bien les accents toniques qui m'aideront à lire et à entendre le latin. Mais c'est effectivement le but. Hein. Donc au moins, en prêtant l'oreille, ils reconnaîtront le passage de l'évangile. Peut-être que pour les épîtres de saint Paul, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Ils reconnaîtront des mots, des bribes de phrases, mais peut-être pas l'ensemble du texte. Mais enfin voilà, c'est déjà une première approche et une première compréhension.
Alors ça fait combien de temps que l'Institut Sapidis dispense ses cours de latin vivant à peu près
Eh bien ça fait à peu près, je pense, un quart de siècle à peu près, puisque le premier qui avait lancé ça, c'était Dominique Vien à l'époque, et on était à peu près dans le tout début des années 2000, lorsqu'il avait découvert non seulement le livre de Hans Horberg, qui est ce Danois qui a proposé un livre avec une démarche pédagogique extrêmement progressive du latin, mais aussi nos amis du Vivarium Novum en Italie, notamment Miraglia, Luigi Miraglia, qui lui avait montré comment utiliser ce livre pour justement apprendre de manière alors vivante ou en tout cas efficace. Et on lui doit beaucoup parce que Luigi Miraglia, lui, avait appris depuis l'âge de 12 ans le latin comme une langue vivante grâce à ses maîtres qui étaient d'anciens jésuites, des religieux, et qui n'avaient pas du tout connu de cassure dans la tradition pédagogique de l'enseignement du latin. Et donc lui, il apprenait le latin comme une langue vivante, il le pratiquait comme une langue vivante. Et pendant très nombreuses années, il a cherché l'ouvrage qui allait lui permettre d'adapter cette méthode. Et quand il a découvert le livre de Hans Horberg, il avait là l'outil qui lui a permis d'être véritablement efficace. Donc c'est dans cette lignée-là que nous essayons de continuer. Et il faut bien dire à vos auditeurs que si nous parlons le latin, ce n'est pas pour le plaisir exotique d'un bavardage en latin, mais c'est parce que c'est pour nous un moyen pédagogique d'accéder plus facilement à la lecture individuelle des œuvres. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel du trésor patrimonial du latin, il est par l'écrit. Et donc, le fait de parler une langue aide plus facilement à la lire, de même que l'écouter aide plus facilement à la lire. Ce sont des notions pédagogiques qui sont aujourd'hui extrêmement connues dans les procédés d'apprentissage de langue vivante. Donc on essaye tout simplement d'adapter le même procédé au latin. Et on s'aperçoit que le latin n'est pas une langue qui renacle à ses procédés pédagogiques, tout simplement peut-être parce que ils correspondent à la méthode naturelle de l'apprentissage de l'esprit humain.
Et de fait, quand on lit un livre, un roman en langue étrangère, si on peut l'entendre, c'est autre chose. En fait, lire l'Édipe nègre d'Agatha Christie, ça peut paraître un petit peu figé, mais si on peut l'entendre, c'est autre chose.
Oui, entendre et puis lire sans être obligé de déconstruire la phrase, c'est-à-dire lire les segments du latin tels que le romain les pense. Vous receviez au début de votre émission la sœur qui présentait ses sciences naturelles, et bien c'est la même démarche naturelle, c'est-à-dire que lire une langue, c'est d'abord se plier à la réalité de cette langue et ne pas vouloir déconstruire cette langue pour la mettre, dans le
moule français.
Oui, dans le moule de notre pensée française. Donc, je vais chercher le sujet, puis le verbe, puis le COD. Nous, on va essayer d'entendre les segments tels qu'ils sont. Ce qui paraît du bon sens, hein, les germanophones qui connaissent la langue et qu'ils savent que parfois le verbe va être à la fin, ils attendent la fin de la phrase pour entendre le verbe et le verbe va donner son sens à toute la phrase. Il en est à peu près de même en latin. Donc évidemment, pour y arriver, on va partir de phrases extrêmement simples et qui vont progressivement se complexifier, donc de phrases simples en phrases complexes. Et puis la structure syntaxique la plus classique va progressivement ainsi pouvoir se mettre en place. Et la répétition de ces tournures que l'on va rencontrer dans les lectures très régulièrement vont se mémoriser tout simplement.
Ça veut dire que, de façon très vivante, on fait une analyse logique.
C'est-à-dire qu'on laisse effectivement...
On lit, et puis on voit où le verbe de la principale, où sont les subordonnées, les relatives, les circonstanciels.
C'est-à-dire qu'on met son intelligence tout simplement avec un esprit de docilité à la réception des segments de la phrase tels qu'ils sont donnés par le locuteur et non pas tels que nous voudrions les entendre. C'est un petit peu, si on prend un exemple en français, si vous vouliez à tout prix, chaque fois que vous entendiez une phrase de Proust, arrêter au milieu de la première ligne pour remettre ce que vous avez considéré comme une circonstancielle de temps à une autre place pour votre cerveau et ainsi de suite, eh bien, vous ne goûterez plus Proust. Et bien là, c'est la même chose en latin. On va essayer de respecter le plus possible l'ordre, quitte à éventuellement, dans un premier temps, revenir à une lecture répétée de cette phrase par segments intelligibles, de façon à ce que progressivement l'intelligence comprenne. Et la grande force de ce moyen, c'est que l'on va pouvoir entendre la langue, c'est-à-dire la comprendre, sans nécessairement passer par la traduction française de la dite langue. Exactement comme le principe des langues vivantes, où on va créer des automatismes. Et d'ailleurs, les enfants qui apprennent ainsi, quand ils ont 2 ou 3 années d'expérience, et qu'ils sont des enfants au moins bilingues ou trilingues avec des langues étrangères, font ça tout à fait naturellement. J'ai eu une expérience un jour en classe tout à fait amusante, un passage qui était un peu plus délicat. Je voulais m'assurer que les enfants l'avaient bien compris. Donc j'ai dit, exceptionnellement pour ce petit paragraphe, on va le traduire. « Oh non, monsieur, on ne traduit pas. » J'ai dit, « Comment ça, on ne traduit pas ?»« Mais non, monsieur, c'est difficile de traduire, c'est compliqué. » Et en fait, il faisait très bien la différence entre une lecture où il comprenait et ils m'ont fait toucher du doigt combien la traduction, c'est un autre exercice de l'intelligence qui demande à avoir préalablement compris le texte pour pouvoir ensuite le restituer dans la langue de traduction le plus précisément. Mais voilà, eux, ils étaient arrivés à cette compréhension du texte sans passer par la traduction.
Alors, ce que vous dites là, parce que vous l'avez constaté sur des enfants de quel âge à peu près ?
Alors là, c'était des adolescents, ils devaient avoir 14-15 ans à peu près, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'ils commençaient le latin. Mais je dois le dire, c'était des enfants qui sont au moins bilingues déjà. Et donc, le mécanisme des langues vivantes, ils le connaissaient. Donc, leur apprendre le latin comme une langue vivante, c'est finalement réutiliser le même mécanisme qu'ils connaissent.
Alors, on peut faire une petite allusion. Vous parliez tout à l'heure de Luigi Miraglia, donc professeur de latin vivant dans le sud de l'Italie, si je ne m'abuse.
Alors, près de Rome, maintenant.
Maintenant, il a été muté, très bien. Et alors, on espère que c'est une promotion. Et quand il était encore au sud, il était venu lors d'un congrès organisé par Dominique Vien à Paris avec ses élèves. Et il nous avait donné une démonstration. Même qu'il y a des appartements témoins. Là, on avait une classe témoin. Oui. Et alors, ce qui m'avait frappé, évidemment, ils parlaient tous latin, mais ils n'avaient pas tout à fait l'allure de latinistes poussiéreux. Il y avait là des gens habillés de la façon la plus contemporaine, avec des piercings et des tatouages. Et ça leur permettait de parler la langue de Cicéron avec beaucoup, beaucoup d'aisance.
Oui, parce que en Italie, les lycéens commencent le latin. Enfin, quand ils sont au lycée général, ils vont commencer le latin en seconde et ça va être obligatoire pour leur baccalauréat. Donc, contrairement à nous, ils ne vont pas l'apprendre au collège, ils vont l'apprendre un peu plus tard, ils vont l'apprendre de manière beaucoup plus resserrée. Et ça va être véritablement une épreuve pour leur maturité, l'équivalent de leur baccalauréat. Donc là, on avait effectivement, à cette époque-là, reçu des élèves qui étaient à peu près à leur 2e année de latin et qui apprenaient avec Luigi, avec cette méthode et ses mécanismes. Donc c'est la raison pour laquelle ils pouvaient écrire du latin, ils pouvaient entendre le latin, ils pouvaient parler le latin et puis ils pouvaient également lire le latin.
Et ça, vous arrivez à le faire. Alors, quelle est la moyenne d'âge des étudiants qui sont...
Alors, la moyenne d'âge, elle est variable, mais j'allais dire qu'on est au moins autour de 45 ans à peu près, je pense, hein, pour le cours du soir, entre les plus jeunes, les jeunes pros, comme on dit aujourd'hui, les gens qui travaillent, les jeunes retraités, les moins jeunes retraités également qui viennent. Mais finalement, tous, alors avec peut-être des difficultés de mémorisation plus ou moins importantes, mais chacun à son rythme va réussir à progresser. La seule petite difficulté, c'est qu'évidemment, vous le savez bien, pour apprendre une langue, il faudrait pouvoir la parler, l'entendre, la lire, l'écrire pratiquement quotidiennement. Là, ils viennent 1h30 par semaine de cours, ensuite ils essayent de travailler autant que faire se peut un peu chez eux. Mais finalement, 1h30 de cours, c'est très, très rapidement passé. Et par contre, il faut avancer. Donc, quelquefois, ils ont de la peine parce qu'ils trouvent que le rythme va un peu trop vite. Donc, dans ce cas-là, on s'adapte au groupe et puis on y va un peu plus lentement. L'avantage, c'est qu'au bout du compte, on n'a pas d'examen, on n'a que la vie éternelle devant nous. Donc, si on doit prendre un peu plus de temps pour avancer, ça n'a pas d'importance. Et l'essentiel, c'est d'essayer de laisser le moins d'étudiants sur le bord de la route, en soufflant et en y perdant tout le début du latin qu'il avait commencé à avoir.
Alors, ça commence quand ? Là, l'été arrive, ce sont les vacances.
Alors, l'été, ce sont les vacances. C'est pour ça que maintenant qu'on est au mois de juillet, nous parlons de la rentrée déjà. Les cours à l'Institut vont reprendre début octobre. Le cours de latin reprend toujours au début du mois d'octobre, ce qui permet à tous d'avoir le temps de rentrer, de s'organiser. Nous-mêmes, à l'Institut, ça nous laisse un peu de temps aussi pour organiser les cours. Et puis ensuite, sur le rythme universitaire, on aura donc 13 ou 14 séances sur le premier semestre, 12 ou 13 séances sur le deuxième semestre. Et c'est une année qui passe très rapidement, puisque début octobre, nous commençons, et généralement, à la fin mai, nous avons terminé.
Et ça représente à peu près quel rythme ? C'est-à-dire une fois par semaine ?
Alors, c'est une fois par semaine, à raison d'à peu près 1h20, 1h30 de cours.
Quel jour, quelle heure ?
Donc normalement, le cours des grands débutants, c'est-à-dire de ceux qui veulent vraiment s'y mettre ou s'y remettre, c'est le mardi soir. Et puis la deuxième année, ou le cours de latin confirmé, c'est le mercredi soir. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a que ces deux cours. Plusieurs étudiants réclament d'avoir en fait un troisième cours qui serait un cours de lecture guidée. On y réfléchit, mais je pense que pour l'instant, si nous y arrivons et qu'on a suffisamment d'étudiants pour le suivre, on ne fera ça qu'une fois tous les 15 jours pour pas que ce soit trop chargé, à la fois pour le professeur et à la fois pour les auditeurs.
Alors, vous dites mardi soir, mercredi soir, premier niveau mardi soir, deuxième niveau mercredi soir.
Soir, ça signifie à 19h. Le cours commence à 19h, il se finit à peu près à 20h20. Donc on fait vraiment 1h20 intense. Pas toujours qu'en latin, parce que quelquefois les explicitations en français peuvent aider. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps. Si on avait plus de temps, on aurait le temps de beaucoup plus faire parler et parler avec les étudiants et donc les exercer. Donc c'est peut-être un petit peu ce qui manque actuellement, c'est que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de pouvoir se lancer. Vous savez, quand on est débutant, on réfléchit à ses mots, on cherche ses phrases, on fait des erreurs. Donc, il faut beaucoup de temps pour accepter que les premières phrases sortent. Et puis, c'est à force de parler que finalement, une sorte d'inhibition s'échappe et qu'on va se mettre de plus en plus à se livrer et à se lancer, en fait.
Alors, question très pratique, ça revient à combien une année ?
Au point de vue financier, vous voulez dire, monsieur Lavé ?
Oui, voilà, exactement.
Alors, c'est vraiment pas très cher parce que, on a à peu près donc 25 cours par an et on demande seulement 375 euros. En tout cas, c'était le tarif de l'an dernier. Je pense qu'il ne bougera pas beaucoup cette année. 375 euros pour toute une année scolaire, en sachant qu'évidemment, on peut payer ou par trimestre ou par semestre. Et ça assure vraiment le minimum. À ça, il faut ajouter l'achat du livre qui se trouve sur Internet et des petits exercices. Le reste, c'est fourni en photocopie. L'accès aux cours enregistrés est du même coup gratuit pour tous les étudiants qui suivent le cours. Et ça aussi, c'est très commode pour certains parce que en cas de grève, en cas de maladie, etc., ils savent aussi qu'ils peuvent continuer à suivre le cours de chez eux. Et donc, ils sont très friands aussi de ce cours enregistré parce que beaucoup me disent « nous le réécoutons dans la semaine ». Et justement, comme le cours est allé assez vite dans son rythme, ça nous permet de revenir sur les points posément, tranquillement, et d'assimiler finalement cette heure et quart, cette heure et demie de cours en plusieurs petits quarts d'heure au fur et à mesure de la semaine.
Donc, je vais demander à Guylaine de nous donner les références. Vous qui connaissez l'Institut Saint-Pédis, on va prendre l'adresse déjà et peut-être l'adresse électronique, le site aussi.
Pour s'inscrire au cours de latin
vivant.
Au latin vivant, bien sûr. Il faut donc joindre l'Institut Saint-Pédis, 21 rue du Cherche-Midi, 75 006 Paris. Téléphone 01 42 22 00 26 et le site iuspx.fr.
Puisque vous enseignez à l'Institut Sapidis de Denis Duverger, qu'est-ce qu'il y a comme autre activité? Là, c'est les activités du soir, mais dans la journée...
Voilà, c'est le périscolaire, là, pratiquement. Il y a aussi, il faut le dire, en cours du soir, un cours de grec débutant et confirmé de la même manière. Hein, le grec, en tant que langue liturgique, on a voulu permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir l'apprendre. Et donc, il y a aussi, en cours du soir, un cours de grec grand débutant et un cours de grec confirmé. Sinon, pour les étudiants ou pour les éditeurs libres à l'Institut, il y a un pôle qui est principalement tourné autour d'une licence d'histoire, principalement, avec toutes les variations de cours qui peuvent être autour de l'histoire. Il y a l'histoire politique, il y a la géopolitique, il peut y avoir de l'histoire de l'art, il peut y avoir l'histoire des idées. Il y a également tout un pôle de licence de lettres, donc lettres modernes et lettres classiques, là aussi avec plusieurs maquettes et variations d'options différentes autour de cette colonne vertébrale que sont les lettres modernes et les lettres classiques. Et puis également de la philosophie. Alors à la philosophie, l'Institut n'a pas, contrairement à l'histoire et aux lettres, où il y a un agrément rectoral académique qui permet de délivrer la licence d'État directement à l'Institut, pour la philosophie, cette licence d'État n'est pas possible. Donc le cours prend la forme d'un bachelor sur 3 ans, exactement comme pour une licence, et il est souvent... accoudé justement ou à une licence d'histoire ou à une licence de lettres, de façon à permettre aux étudiants qui souhaitent étudier la philosophie de sortir au bout des 3 ans, non seulement avec leur bagage philosophique, mais aussi avec une licence reconnue ou de lettres ou d'histoire.
Et vous qui enseignez depuis un certain temps, qui avez même été étudiant, quels sont les débouchés? Qu'est-ce que l'on voit parmi... L'Institut a 46 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu comme formation?
J'allais dire qu'il y a de plus en plus de débouchés polymorphes, parce que finalement, les 3 ans à l'Institut, c'est l'équivalent d'une licence. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre quelque chose, monsieur l'abbé, en vous disant que la licence d'aujourd'hui, ça doit être à peu près l'équivalent du niveau de culture générale du bac d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Et donc finalement, cette licence permet aux étudiants d'avoir en sciences humaines une assise très solide de culture générale, une capacité de réflexion, une capacité de rédaction également, qui ensuite leur permet de... postuler sur des masters qui aujourd'hui sont de plus en plus divers et variés. Vous avez des étudiants qui partent sur des masters de recherche, évidemment, sur des masters d'enseignement, mais aussi sur des masters d'école de commerce ou pour des relations humaines ou pour les concours de l'administration, pour le journalisme, voilà.
Donc, et là aussi, c'est le moment de s'inscrire.
Et là, c'est encore le moment de s'inscrire. Alors, beaucoup d'étudiants ont dû suivre le rythme et le cheminement de Parcoursup. Mais si, par exemple, ils n'ont rien ou qu'ils veulent changer d'orientation en courant d'été parce que finalement, ce que Parcoursup leur propose ne leur convient pas, ils peuvent toujours envoyer un mail à l'Institut Saint-Pédis ou téléphoner au secrétariat. Et ils ont la possibilité de s'inscrire hors Parcoursup, encore jusqu'à la rentrée de septembre, à l'Institut Saint-Pédis, dans une de ces 2 ou 3 filières qu'on vient de rappeler.
Alors Guy, là, je vais vous redemander l'adresse électronique de l'Institut, l'adresse postale, l'adresse du site aussi, parce que tout est bien expliqué, il y a un site très très bien fait.
Institut Universitaire Saint-Pédis, le site... iuspx.fr, une adresse postale 21 rue du Cherche Midi 75 006 Paris, un téléphone 01 42 22 00 26 et l'adresse courriel
iuspx@iuspx.fr.
Un grand merci. Juste avant de nous quitter, chers amis, j'ai eu l'occasion de parler des sacres à icônes avec Mère Marie-Thienne qui en revenait et également avec André Skouranik. Si vous voulez avoir des précisions et même accès aux documents, je vous conseille le prochain numéro de D'ici, le numéro 470 qui paraîtra dans 7-8 jours à peu près, c'est cela. Guylaine, vous nous donnez juste l'adresse si vous voulez bien.
Pour s'abonner ou pour recevoir le numéro, il suffit d'écrire pour un abonnement à D'ici, un an, 12 numéros, 40 euros, à l'ordre de Sivi Roma, 33 rue Galande, 75 005 Paris.
Alors vous aurez effectivement les textes de M. l'abbé Pagliarani, les documents, également aussi un témoignage très émouvant de Mgr Strickland, l'évêque de Tyler, en faveur de la Fraternité Saint-Pédis, disant que c'est une question d'amour, il a bien raison, amour des âmes et amour de l'Église. Et puis je vous conseille, alors plus tard, dans 15 jours, 3 semaines après, ce sera le numéro de Nouvelles de Chrétienté, où là vous aurez la déclaration de foi qui a été envoyée à Rome juste avant les sacres par l'abbé Pagliarani, et également le texte intégral de son sermon. Et là, Guylaine, les prix sont encore moins chers.
Pour un abonnement d'un an à Nouvelles de Chrétienté, 6 numéros par an, 20 euros à l'ordre de Sivi Roma, 33 rue Galande, 75 005 Paris.
Un grand merci. Nous nous retrouvons dans
4 semaines, le 30 juillet.
À bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions, créé par Claude Giraud et dirigé aujourd'hui par l'abbé Alain Laurence, assisté de Guylaine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 2 juillet 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.